Chapitre 26. Avec ce chapitre, nous reprenons l'histoire des derniers jours de la vie du Seigneur sur la terre. Les premiers versets nous font entrevoir ce qui se passait dans le palais du souverain sacrificateur. Nous n'y trouvons que ruses et plans de meurtre. Les versets 6 à 13 nous détournent de toute cette abominable méchanceté tramée dans les hautes sphères pour fixer notre attention sur un acte d'amour et de dévouement accompli dans l'humble demeure de quelques fidèles du résidu pieux. Par Jean 12, nous savons que la femme était Marie de Béthanie. Il est clair qu'elle a oint à la fois la tête du Seigneur et ses pieds. Mais Matthieu, mettant l'accent sur son caractère royal, ne parle que de sa tête. C'est ce qui convenait pour un roi. Jean, soulignant sa divinité, nous dit que ses pieds furent oints, et pourtant même un serviteur aussi grand que Jean le Baptiseur n'était pas digne de délier les courroies de ses sandales. Les disciples ne comprennent rien du tout à cet acte de dévouement. Pour eux, c'est une pure perte. L'Évangile selon Jean nous apprend que Judas Iscariote est l'instigateur de leur réaction. Mais cela montre que, dans leur pensée, l'argent passait avant les pauvres, et qu'ils étaient ignorants et se leurraient quant à sa mort prochaine. La femme ne se préoccupait ni d'argent ni des pauvres. Elle ne voyait que Christ, et il sut interpréter son geste. Très probablement, elle a agi plus par instinct que par intelligence, mais elle avait conscience que la mort menaçait l'objet de ses affections et de son adoration, et le Seigneur accepte ce qu'elle a fait comme étant pour sa sépulture. Non seulement il approuve son acte de dévouement, mais il déclare qu'il en sera parlé en mémoire d'elle en quelque lieu où l'Évangile sera prêché dans le monde entier. Et il en a été ainsi. Le dévouement de la femme est en contraste absolu avec la haine des chefs religieux rapportée dans le paragraphe précédent et avec la trahison de Judas dans les versets qui suivent. La violence atteint son point culminant chez les chefs. Ils seraient prêts à le faire mourir sur le champ sans scrupule. La corruption est à son comble chez Judas, qui, après avoir marché 3 ans avec Jésus, veut réaliser par sa trahison le misérable gain de 30 pièces d'argent. En Israël, selon Exode 21, verset 32, un esclave était estimé à 30 cycles d'argent. En outre, si le deuxième paragraphe de notre chapitre, versets 6 à 13, présente l'attachement d'une femme pour son Seigneur, le quatrième, versets 17 et suivants, montre la sollicitude du Seigneur envers ses disciples et son désir qu'ils se souviennent de lui pendant la période, toute proche alors, de son absence. Ils mangent la Pâque dans le lieu choisi par le Seigneur. Au cours du repas, Jésus désigne le traître et le prévient de son jugement. Les Saintes Écritures avaient prédit que le Fils de l'homme serait livré à la mort par trahison, mais cela n'ôte rien à la gravité de l'acte du traître. Que Dieu soit omniscient et puisse prédire les actes des hommes, ne décharge pas ceux-ci de leur responsabilité. Par sa conduite, Judas découvrait son vrai moi. Jésus, lui, allait se révéler pleinement par sa mort. À la fin du souper pascal, Jésus institue son repas comme mémorial de son corps donné et de son sang versé pour nous en rémission de péché. Rien, dans la teneur des versets 26 à 29, ne définit clairement que cette institution doit être observée jusqu'à son retour. C'est 1 Corinthiens 11 qui nous enseigne à cet égard. Mais le verset 29 permet de le déduire, car la coupe parle de bénédiction et de joie, et le Seigneur en boira d'une manière nouvelle dans son royaume. En attendant, la coupe est pour nous, non pas pour lui. Aujourd'hui, notre Seigneur est caractérisé par la patience. Au jour du royaume, il entrera dans la bénédiction et dans la joie d'une manière tout à fait nouvelle. Dans l'intervalle, nous avons le mémorial de sa mort, car son corps et son sang ne nous y sont pas présentés ensemble comme s'il était un homme vivant sur la terre, mais séparément. Ce pain, son corps, et cette coupe, son sang répandu, symbolisant ainsi sa mort. Alors qu'ils s'en vont à la montagne des Oliviers, Jésus leur annonce que sa mort provoquerait leur dispersion, selon ce que les Écritures avaient dit. Mais ils dirigent leurs pensées sur sa résurrection et fixent un lieu de rendez-vous en Galilée où ils les retrouveraient. Mais Pierre, très sûr de lui, résiste à l'avertissement pour sa propre perte. Et ainsi, le fait et la portée de la résurrection lui échappent aussi. Ce trait caractérise tous les disciples, mais pas au même degré. Très vite, ils vont être mis à l'épreuve à Gethsémané. Là, en esprit, Jésus connaît l'angoisse de la mort qui est devant lui, mais dans la pleine communion avec son Père. Sa perfection même le fait reculer devant tout ce que signifie la souffrance et la mort comme jugement de Dieu, mais il accepte cette coupe de la main du Père. En outre, la perfection de son humanité veut qu'il recherche la sympathie de ses disciples, mais la parole prophétique s'accomplit. J'ai attendu que quelqu'un eût compassion de moi, mais il n'y a eu personne. Et des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. Psaume 69, verset 20. Pierre et les autres, tellement sûrs de ne jamais le renier, ne peuvent veiller une heure avec lui. La chair en eux est trop faible, mais ils ne le savent pas encore. Ils ne savent pas non plus que la trahison de Judas va aboutir et que le dénouement est imminent. Et pourtant, l'heure est venue. Et le reste du chapitre révèle le contraste surprenant entre le Christ de Dieu et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont en contact avec lui. Ils manifestent chacun les traits particuliers de laideur qui leur sont propres. Il est, lui, par son calme, la figure centrale de ce tableau. Judas, le traître, s'avance le premier. L'hypocrisie masquant sa trahison est telle que 19 siècles plus tard, le baiser du traître demeure une expression proverbiale de dégoût. Pour reprendre le langage du psaume 41, verset 9, « Mon intime ami aussi en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. » Aussi Jésus, s'adressant à lui, l'appelle-t-il « ami », mais il lui pose la question pénétrante « Pourquoi es-tu venu ?» Il était venu pour trahir son maître et empocher 30 misérables pièces d'argent. L'hypocrisie écœurante du faux disciple est suivie par le zèle charnel d'un vrai disciple. L'évangile selon Jean nous apprend qu'il s'agit de Pierre. L'homme sûr de lui dort quand il aurait dû veiller et frappe lorsqu'il aurait dû rester tranquille. Si son geste n'avait pas été désavoué, il aurait discrédité son maître. Le moment vient où les saints se réjouiront de la gloire, alors les louanges de Dieu seront dans leur bouche et une épée à deux tranchants dans leurs mains. Psaume 149, versets 5 à 7. Mais ce sera à la seconde venue du Seigneur, et non pas à la première. L'action de Pierre était tout à fait déplacée et aurait pu lui valoir un coup d'épée en retour. Elle ne s'accordait pas non plus, en aucune manière, avec l'attitude de son maître qui avait à sa disposition une puissance à laquelle rien ne pouvait résister, mais qui consentait à être amené comme un agneau à la boucherie, ainsi que les Écritures l'avaient annoncé. Pour détruire de dessous le ciel les villes de la plaine, Dieu n'a envoyé que deux anges. Que se serait-il passé si 12 légions d'anges avaient été lâchées sur ce monde rebelle? Le Seigneur n'a pas prononcé la prière qui les lui aurait fournie, et le coup porté par Pierre, autant pour lui-même que pour son maître, était simplement ridicule. Si nous pouvons nous réjouir de souffrir comme chrétiens, nous sommes spirituellement vainqueurs. Et si nous prenons l'épée, nous perdons la bataille spirituelle, et finalement nous périrons par l'épée. Une des principales causes de la triste stagnation et de la dégradation de la Réformation d'il y a 4 siècles est que ses promoteurs ont recouru à l'épée pour sa défense, et qu'ainsi ils en ont fait un mouvement national et politique, et plus seulement spirituel. Nous voyons ensuite le Seigneur s'adresser calmement à la foule grossière, sortie sous la conduite de Judas pour l'arrêter. Il leur montre l'inconvenance et même la folie de leur manière d'agir. Face à cette troupe nombreuse, le courage des disciples fond. Ils abandonnent tous leur maître et s'enfuient. Voilà comment se conduisent même les meilleurs d'entre les hommes. La foule le livre au chef d'Israël. Ces hommes qui prétendaient représenter Dieu avaient rejeté toute prétention de rechercher la justice. Il n'est pas dit qu'ils ont été induits en erreur par un faux témoignage, ni qu'ils ont été tentés à le recevoir parce qu'il leur était imposé. Non, mais ils cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus de manière à le faire mourir. Ils en cherchaient un. Y a-t-il jamais eu sur cette terre un procès autre que celui-ci ? Où les juges ont dû commencer par chercher des menteurs pour pouvoir condamner l'accusé. C'est ce qui s'est passé là. Et Jésus garde le silence. Le jugement n'ayant plus rien à faire avec la justice, il comparaît devant eux avec une dignité divine. Il ne parle que pour confirmer qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et proclamer sa gloire à venir comme Fils de l'homme. C'est sur cette base qu'il le condamne. Mais le souverain sacrificateur enfreint la loi en déchirant ses vêtements au moment où il prononce son jugement, et par là, il se condamne lui-même. À ce signal, les insultes se mettent à pleuvoir sur notre Sauveur et Seigneur. Le calme et l'éclat de sa présence nous font mesurer la sinistre dégradation dans laquelle ils étaient enfoncés. À la fin de ce chapitre, Pierre moissonne ce qu'il a semé par sa confiance en soi. Au verset 58, nous lisons qu'il suivait de loin, et maintenant, nous le trouvons avec les ennemis de son Seigneur, incapable de résister. Sa faiblesse se manifeste dans ce qui paraissait être son point fort, car impétuosité et courage sont deux choses différentes. L'énergie charnelle l'a poussé dans une position où il n'aurait jamais dû être, et il est tombé. Ne lui jetons pas la pierre. Prions plutôt qu'il nous soit accordé, si nous devions nous trouver dans une situation analogue à la sienne, une repentance semblable à celle qui est rapportée dans le dernier verset, une repentance qui a commencé immédiatement après la chute.